Bonsoir à tous et bienvenue sur STFL Network pour cette première émission consacrée à la STFL. Au programme ce soir, un éclairage sur la STFL Cup qui aura lieu demain entre Seattle et Montréal. Nous verrons ensuite quels ont été les principaux acteurs de la saison qui peuvent prétendre au titre de MVP et de coach de l'année. Et enfin, nous terminerons sur une analyse du rookie draft à venir, ainsi que des futurs premiers choix possibles. Je suis Frédéric Pérez, le général manager de Birmingham, et c'est moi qui vais animer cette soirée. Nous avons également avec nous deux invités prestigieux qui, tout au long de l'émission, vont nous faire part de leurs analyses. Avec nous donc Krajcek, que je vais laisser se présenter.
Bonjour, donc Krajcek, dit Ludovic dans la vie normale. Non, moi je suis le GM des Chicago Black Sixers depuis la saison 2. Donc voilà, donc 4 finales, un titre, et puis voilà.
Et beaucoup de fiches positives.
Beaucoup de fiches positives, même là si ça fait. J'ai raté les playoffs cette année et je m'occupe aussi un peu de la STCFL, la Ligue universitaire.
Ok, merci. Nous avons également à l'antenne GM Seb, on va peut-être l'appeler que Seb pour la soirée, qui va également nous parler un petit peu de lui.
Donc bonjour à tous, GM Seb, général manager des Québec Patriotes. Donc ça fait maintenant 5 années que je suis à la tête de l'équipe des Patriotes pour 3 apparitions en playoff, dont une cette année obtenue in extremis et à ma très grande surprise.
Ok, impeccable.
Voilà.
Autre chose à ajouter? T'es là depuis quand? Depuis le début de la ligue ou t'es arrivé un petit peu en cours de route?
Tu...
Ouais, Seb.
Non, je suis arrivé il y a 5 saisons.
D'accord, ok. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons aborder le premier thème, qui est la finale de la STFL Cup, donc qui aura lieu demain à Boston. Tous les fans sont en attente de cette finale. Et c'est ni plus ni moins le remake de la finale de l'année dernière qui avait donc été remportée 28 à 10 par Seattle. Et voilà, donc Krajcek va nous faire une petite présentation de l'équipe de Seattle, je crois. C'est bien ça, Krajcek?
Ouais, tout à fait. Ben donc les Seattle Wildcats, amenés par leur GM Ambro, qui est là depuis le début. Donc pour eux, c'est un peu une des révélations de ces dernières années, parce que Seattle, ça a été des débuts assez très difficiles. Et peut-être du fait de la présence de Carson City, ça les a aidés à dans l'adversité à s'améliorer et c'est vrai que c'est devenu ces derniers temps une des équipes phares de la STFL. Donc là on voit vraiment qu'ils dominent un peu la ligue. Là ils ont dominé un peu toute la saison régulière avant de s'écrouler sur la fin. Donc Seattle pour moi c'est un peu une équipe où il y a le X Factor comme j'appelle. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas un roster vraiment exceptionnel. Il y a pas beaucoup de joueurs d'exception, mais ça gagne quand même et on sent qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est une des équipes qui a un peu son style de jeu approprié avec son blitz à outrance.
Oui, ça c'est
Et
la
du coup,
marque de
ça
fabrique.
marche.
La marque de fabrique de Seattle, c'est le blitz à outrance, effectivement.
Voilà, tout à fait. Avant, il y avait Strickland et Gir qui accumulaient les sacs et les sélections All-Star. Donc là, quand on voit l'effectif, c'est vrai que rien qu'en défensive, en ligne défensive, ils ont juste deux joueurs de niveau 7, dont Kef Kaufman, que je connais bien pour l'avoir drafté en deuxième tour lors de la deuxième draft, mais qui est plutôt un DT contre la course. Mais du coup, ça arrive quand même à engranger les sacs. Mais le problème de cette tactique, c'est un peu qui tout double. Donc c'est soit si la ligne offensive en phase craque, ça va annuler toute l'attaque, ou sinon on va y avoir vraiment cette porte ouverte et les autres vont marquer.
Voilà, l'avantage c'est que ça crée pas mal de turnover. Là, Warnock derrière
Aussi
en
oui,
profite pas mal, par
parce que
exemple.
du coup ils ont effectivement derrière des big players qui sont là pour sortir les interceptions. Donc il y a Warnock, il y a Avery aussi qui a fait le All-Star Game cette saison. Et il s'appuie aussi sur l'expérience avec des joueurs comme Kingman qui a été longtemps une référence à son poste dans la STFL. Donc il peut être très solide, mais avec le blitz, ça dépend comment on va réagir l'adversaire. S'ils arrivent à contrer les blitz, ça va faire très mal à la défense de Seattle. Mais la force, c'est qu'ils ont aussi une bonne attaque quand même. Donc avec Simmons, le receveur notamment, qui a encore tourné à plus de 1 milliard cette saison.
Oui, c'est un bon duel avec le receveur de Carson City d'ailleurs.
Et du coup, il y a Briggs qui tourne bien aussi. Là, il était à 95 de rating, 29 touchdowns cette saison, pour plus de 4 milliards. Donc, ils ont.
Il s'est bien imposé pour le poste de titulaire d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ils étaient en tournante plus ou moins
Avec Bazan.
avec l'autre quarterback forcément. Et puis c'est Briggs qui a gagné la bataille apparemment.
Et là, en plus, ils ont un petit receveur Nate Spade qu'il a pris il y a 2 saisons, je crois, à la draft, qui aussi tourne à près de 1 milliard.
Oh bah il est rookie de cette année a priori.
Oui, ou peut-être rookie, ouais, du coup. Et donc, du coup, la force qu'ils ont, c'est quand la défense se prend quand même des yards, ils ont l'attaque pour engranger des points aussi. Donc, cette saison, il y a plusieurs matchs qui ont vraiment tourné dans un festival offensif. Donc, je vois 45 points à Sacramento. Ils ont battu Carson City 37-30, Sacramento 43-30. Donc vraiment,
Ouais, il y a
c'est.
des bons scores qui sont là quand
Donc,
même.
c'est souvent face à Carson City d'ailleurs, sauf la petite piquette qui s'est prise l'avant-dernière journée, 44-3.
Ouais, mais est-ce
C'est.
qu'ils n'étaient pas déjà en attente des playoffs, justement?
Le problème, c'est que là, ils ont tout perdu avec Carson City Wyoming, où normalement, ils devaient avoir le bail et le titre d'association.
Ouais,
Donc,
enfin, au final,
ils sont bien
Carson
repris
City a
quand
été
même.
sorti et. Ouais.
Mais
Ok.
c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir l'attaque qui peut tenir si sur des flanches.
Ok.
Mais donc comme je dis, c'est autant Montréal, je trouve, c'est une équipe un peu régulière, donc ils ont l'effectif pour et on les attend un peu à ce niveau. Autant Seattle, ils arrivent vraiment à se surpasser. Et surtout, ce qui est important, et je pense qu'il va peut-être jouer dans ce match. C'est surtout si la défense de Montréal tient son niveau ou que ce soit un match fermé, c'est que Seattle a 3 des 4 special teamers en All-Star cette saison. Donc leur kicker, le punter et leur kick returner. Donc ça, dans la bagarre de position du terrain, ça peut être important. Et même au niveau du kicker, ce que je vois bien, un petit field goal dans les dernières secondes, comme ça se passe souvent dans les finales de la STFL. Avec James Cook,
Ouais, il a les nerfs pour clôturer le
voilà.
match, quoi.
Alors qu'on voit que Francis à Montréal, qui était aussi All-Star pour Montréal, a pas été prolongé. Et du coup, on voit contre Richmond qui commençait un peu à flancher. Donc, je pense que si ça se jouait un field goal près, Seattle est peut-être mieux armé.
Bon, ben impeccable. On va passer avec Sébastien maintenant à une présentation de Montréal. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette équipe, Sébastien?
Bah, déjà, à Montréal. Peut en parler, bien en parler, puisque bon, je les affronte quand même avec Québec 2 fois par saison. Donc,
Ah oui, c'est vrai,
on est des ennemis intimes, dirons-nous. Donc, je pense que déjà, Montréal, pour moi, c'est l'équipe que je vois dans la ligue qui est la seule qui joue pas très bien, mais qui gagne tout le temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un jeu offensif exceptionnel, ni qui fait peur, mais ils s'appuient sur une défense qui est très forte. Si je regarde un peu sur la saison, ils sont à 19 points encaissés par match à peu près. Sur ces playoffs, 10 points. Bon, il n'y a que 2 matchs, mais bon, seulement 10 points. Ils ont réalisé 26 interceptions, 28 sacs. Ce qui en fait pour
Ouais,
moi,
c'est efficace en défense, a
voilà,
priori.
très efficace en défense, ce qui permet d'avoir une attaque quand même moins forte. Leur
D'accord.
attaque, pour moi, se base principalement sur leurs deux coureurs Maurice et Crew, pas des coureurs exceptionnels, mais qui à eux deux sont très complémentaires et arrivent à être performants et à perforer petit à petit les défenses adverses en les fatiguant, en les usant, laissant de la liberté au receveur Copeland qui peut se régaler sur des réceptions après plus faciles puisqu'ils attirent quand même pas mal les défenseurs adverses.
Voilà, Copeland a fait une très bonne saison aussi. Je vois ça un petit peu au niveau des stats. Il a 8 touchdowns là sur la saison. Il a fait vraiment une bonne saison vu son âge.
Très belle saison vu son âge, vu aussi le quarterback qu'il a, puisqu'il n'a pas non plus un top quarterback pour lui lancer les ballons.
Ouais.
Donc,
Il va être content, il va être content d'apprendre que ce sera un bon quarterback, Watley, je pense,
il est
qui nous
bon.
écoute.
Il est bon, mais il a surtout. Ses stats sont liées aussi à sa très bonne ligne offensive. Qui,
Ouais.
surtout
Surtout,
avec
il est free
Milne.
agent là, Wesley, cette
Et voilà,
saison.
il a tellement convaincu à Montréal qu'ils ne l'ont pas gardé, a priori.
Voilà, ils l'ont pas gardé. Alors, justement, le fait qu'il l'ait pas gardé est un danger pour Seattle, puisqu'il va vouloir prouver qu'il mérite une équipe, puisqu'il va être à la recherche d'une équipe, donc il va sortir un beau match.
Ouais, je suis
Je
plutôt
pense que
d'accord,
cette
il va essayer de se
finale,
montrer.
voilà, il va se montrer
De toute
pour
façon,
le
une
beau
finale, ça se
contrat.
joue peut-être qu'une fois dans sa carrière, donc même sans les conditions salariales, il va quand même vouloir jouer pour gagner, je pense.
C'est
Ça va être
sûr, c'est
mieux
sûr.
pour
Mais puis
lui.
bon, en plus dans cette finale, il y a quand même la revanche de l'an passé, où Montréal a perdu alors qu'on les attendait peut-être plus que Seattle. Cette année, la finale à Boston, ils y vont une fois par an jouer là-bas. Ils sont habitués, ils connaissent bien le terrain. Donc je pense que si ils arrivent à limiter les pertes de balles, parce que bon, ça, c'est vrai qu'ils en concèdent quand même pas mal, eux. Ils ont une très bonne chance face à Seattle de venir à bout de Seattle.
D'accord. Et à Montréal, moi, il y a quand même la triplette défensive que j'aime beaucoup, qui est Mike Michael, Davenport et Zolda, qui ils sont niveau 9, niveau 9, niveau 10, ils font quand même beaucoup de boulot. Est-ce que tu penses que la finale va se résumer à une espèce de duel entre l'attaque un petit peu explosive de Seattle et ces trois défenseurs-là, surtout à Montréal?
Clairement, si la défense de Montréal arrive à jouer à son niveau habituel en s'appuyant donc sur ses joueurs de talent, je pense que Seattle va avoir beaucoup de mal à s'en sortir.
Ok, d'accord. D'autres choses à rajouter, peut-être Krejcik sur Montréal?
Pas plus, c'est vrai qu'ils ont une défense qui est vraiment très solide, ils l'ont montré contre Richmond où ça peut vraiment tenir. Mais après, ce que j'ai peur, c'est leur attaque. Parce que même si Cruz et Maurice, au niveau du jeu au sol de Montréal, c'est juste 3,3 yards par course.
Ouais, c'est un petit peu faiblard quand même, ouais.
Donc si Seattle arrive à arrêter Copeland, qui est vraiment une des menaces, ça va être vraiment difficile pour Montréal de développer un jeu d'attaque efficace. Et voilà. Après,
Ok.
voilà.
Je vais vous demander quand même de vous mouiller un petit peu. Seb, par exemple, tu penses que plutôt une victoire Seattle, plutôt une victoire Montréal, un écart de points peut-être?
Montréal, mais de pas grand-chose. Par plus 3, pas plus.
Ouais,
On voit
d'accord.
bien une
Et pour
finale dans les dernières secondes.
ouais, sur une finale tendue du coup. Et
Voilà.
Krejcik pour toi?
Alors, je vais être précis. Donc, je vois bien un petit Seattle qui bat Montréal 20 à 17 sur un field goal à 30 secondes de la fin.
Bon ben voilà, ça peut être utile pour ceux qui font des paris en ligne, hein, comme ça ils vont pouvoir aller placer un petit peu leur pari. Ben voilà, on va attendre comme ça la finale demain, on verra exactement qui peut gagner, si Seattle peut faire le doublé et ou si Montréal peut remporter, alors si je dis pas de bêtises, son deuxième titre me semble-t-il.
Ouais, ça va être sa deux ou troisième, je sais plus trop.
Voilà, de mémoire, Seattle, lui, ils ont gagné quand même pas mal de fois ces dernières années. Et Montréal, ça remonte déjà, c'est plus
Ouais,
ancien
qu'une
déjà.
seule victoire, parce que je crois pas qu'il y ait de double tenant du titre dans l'Atlantique.
Ouais, ça prouve que le niveau, il est quand même
Surtout
assez
que
costaud.
la PAC Nord monopolise un peu le trophée,
Oui, il
c'est
trust un petit peu tout.
entre Carson City et Seattle, oui, c'est
Ouais, je regardais un petit peu mes fiches. Montréal, oui, ça remonte à la
saison 7, je crois.
6e
Voilà.
saison, voilà, 6e saison. Alors que
Je
Seattle,
crois qu'ils nous avaient d'ailleurs sorti en finale de conférence. Et je sais pas si c'est pas la saison où justement ça devait se jouer à Chicago la finale. Quelque
Ah,
chose comme ça.
défaite crève-cœur, donc. Ok, nous allons maintenant aborder le second thème. On va parler des principaux favoris que nous pensons pouvoir voir pour le titre de MVP de la saison et de coach de l'année, puisque les élections vont se passer dans pas longtemps en principe. On devrait pouvoir voir les nommer bientôt sur le forum. Et Krejčí, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont particulièrement impressionné cette saison?
Il y en a surtout un, donc il sera peut-être pas élu au titre de MVP parce qu'il joue à Houston et que Houston a pas enchaîné beaucoup de victoires, mais il a une fiche de stats peut-être l'une des plus complètes de ces dernières saisons. C'est l'inside linebacker de Houston, Ramblant Hawks. Donc juste pour niveau stats, c'est 141 plaquages, 9 sacks, 4 déflexions, 6 hurries, 22 stuffs, une interception pour 79 yards et 3 fumble forced. Donc c'est le joueur qui est vraiment partout et c'est une valeur sûre quoi. Donc des stats
Ouais,
comme ça c'est vraiment hallucinant je trouve.
141 tacles, c'est quand même énorme.
Ouais,
Je suis pas sûr qu'il soit pas loin des records là.
9 sacks, 22 stuffs, donc en avis presque il est leader des linebackers ou pas loin dans toutes ces catégories. Donc et en plus je pense qu'il a aussi aidé ses coéquipiers parce que ses autres coéquipiers ont vraiment enchaîné des grosses stats. Donc, voir d'où venait le problème à Houston, parce que vraiment, ils ont une défense, qui est vraiment assez impressionnante.
Ouais, il bouge vraiment sur tout ce qui bouge en ce moment. Et c'est vrai qu'il a quand même fait une bien grosse saison. Du côté des coachs, tu vois quelqu'un de particulier également?
Ben, en coach, celui qui a fait une très très bonne saison, pour moi, c'est le GM d'Orlando, Shane. D'ailleurs, j'avais fait une petite analyse des coachs, et c'est lui qui est arrivé en première place, où vraiment, au niveau statistique, à part en ligne offensive, je crois, il était dans le top 10 de toutes les catégories statistiques. Il gagne un titre d'association de l'Atlantique, il bat deux fois la Nouvelle-Orléans dans sa division.
Ouais, il bat assez régulièrement Birmingham aussi d'ailleurs.
Voilà aussi. Donc vraiment pour moi il a fait une très très grosse saison, sachant qu'Orlando, même s'il avait déjà eu une finale il y a quelques saisons, il a bien réussi à remonter la barre parce que c'était pas une équipe habituée au tableau.
Oui, c'est vrai qu'il a, bah, depuis qu'il est aux commandes, en fait, on a bien vu la différence. Avant, on était à peu près deux équipes dans notre groupe. Maintenant, bah, il y en a une troisième. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Seb, je crois que toi aussi, t'as repéré un joueur qui t'a bien plu cette saison. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, donc c'est le quarterback de Brad Carson City, Ervin Mako,
Le fameux.
le fameux, qui pour moi est de loin le meilleur quarterback de la ligue. Alors, il prend beaucoup d'interceptions, 21 cette année, mais il réalise quand même 4 560 yards à la passe pour 40 touchdowns, un rating de 103. C'est le seul quarterback de la ligue au-dessus des 100 de rating sur la saison. Donc, ce qui est quand même une très belle
Ah oui,
performance.
c'est assez énorme.
Surtout que bon, il n'était pas attendu comme un si bon quarterback.
Oui,
Et
c'est
il
la grosse
arrive.
surprise quand même.
C'est
Il
vraiment,
avait quand même
voilà.
été élu MVP de la saison universitaire à Mobile,
Mais c'est vrai qu'il y avait surtout des questions sur son physique à l'entrée de la draft. Certains pensaient qu'il n'avait pas trop le physique pour tenir en STFL. Mais bon, on
Voilà, il
sait
a surtout.
qu'à Carson City, c'est un peu l'école d'élevage des
Les
quarterbacks.
scouts de Carson et Tak en particulier sont très en avance souvent
Hein.
sur ce qui se passe chez les jeunes.
C'est comme on va dire,
Voilà.
c'est un peu le Belichick de la STFL.
C'est clair.
C'est un quarterback qui possède quand même un très bon bras aussi. Capable, son meilleur lancé sur la saison est à 67 yards. Bon, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks au-dessus. Donc pour moi, avec de telles stats, surtout par rapport aux autres quarterbacks de la ligue, il ne peut que être élu MVP. Il a permis à Carson City de réaliser une très belle saison également. Donc pour moi, ouais, de loin, il doit être élu MVP.
Ben, moi je le sentais pas très précis au final quand je le voyais un petit peu chez les universitaires, et puis au final il est pas si loin que ça des 60% de complétion au final, donc ce qui est pas si mal que ça. Puis les 40 touchdowns lancés, ça c'est tout simplement énorme quoi. C'est vraiment
Voilà.
bon, il est quand même exceptionnel à ce niveau-là quoi. Ça fait gagner pas mal de matchs assez régulièrement.
Ah bah ça clairement, surtout bon, surtout qu'il aime bien les comebacks dans les dernières minutes aussi. Donc il résiste très bien à la pression et voilà, il est là dans les moments clés quoi.
Ouais, puis en plus il est encore jeune, donc je pense qu'on va encore le voir pendant
Plus là,
quelques saisons là.
il a signé un très beau contrat puisque je suis aussi son agent.
Krejčí
Donc il va faire vraiment
l'homme à
le
tout faire.
Ah oui, voilà, il va me rapporter un peu d'argent, c'est bien.
Bon. Et puis sinon, tu as également un coach qui t'a tapé dans l'œil, je pense, Seb. Pareil, tu peux nous en parler, nous faire un petit topo.
Et tout simplement Ambro, parce que bon, en plus de jouer la finale, honnêtement, quand on lisait toutes les analyses d'avant-saison, personne ne voyait Seattle arriver si loin, quoi. Faire une aussi belle saison, bon, qui a été un peu entachée par les deux derniers matchs où on va dire qu'ils étaient peut-être déjà dans leur tête en playoff, les joueurs. Mais voilà, il a réussi à transcender une équipe qui est pas exceptionnelle au niveau du niveau des joueurs, mais il a su créer une alchimie et en faire une très bonne équipe. Et c'est pas pour rien qu'il va disputer sa troisième finale en 4-5 ans, quoi.
En gros, depuis 4-5 saisons, il y a vraiment eu un changement à Seattle qui est assez important, quoi. Ils sont passés d'une équipe qui perdait régulièrement à une équipe qui gagne très souvent.
Voilà, et tout le mérite en revient à Ambro qui réalise quand même un très très bon travail avec cette équipe.
Ouais, je pense aussi. Moi, je vais y aller aussi de ma petite touche personnelle. Voilà, moi j'aime bien. Alors, pour le titre de MVP, je suis aussi parié sur les statistiques des joueurs de Carson City. Donc toi, tu as parlé, Sébastien, de Mako. Moi, je vais parler de Nils Sanders, donc qui est de l'autre côté des passes de Mako, qui est le wide receiver. Il a, pareil, eu des stats phénoménales. Souvent grâce aux passes de Mako, faut bien être honnête. 91 réceptions, bon, là il est déjà largement au-dessus de ce qui était prévu pour lui, mais alors il est pratiquement à 2 milliards de réceptions. Il a des moyennes assez importantes quand même. Il a pratiquement 21, plus de 21 même yards de moyenne sur des réceptions, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un receveur de la ligue. Et pareil, 17 touchdowns, pareil, ça a fait gagner un paquet de matchs pour Carson City. Autre stat qui m'a quand même pas mal amusé quand j'ai vu ça, parce que c'est pas spécialement les stats que je regarde le plus souvent, mais 75 first down gagnés par Sanders. Donc bon, si on fait une moyenne sur le nombre de matchs de la saison, je pense que ça doit être c'est un bon nombre par match de first down gagnés rien que par ce receveur-là. Donc voilà, j'espère qu'il sera au moins dans les nommés. Je mettrai quand même une petite pièce aussi pour, on sait jamais, pour le faire élire MVP de la saison. Surtout que je l'aime bien, c'est un équipier modèle, c'est un meneur d'hommes aussi. Donc voilà, ça serait une consécration, sachant qu'il est quand même plus très jeune. Il a passé la 30e année là, donc voilà, j'aimerais bien qu'il ait quand même à un moment donné une petite récompense. Et puis voilà, du côté des coachs de l'année, j'ai mon petit chouchou également. Pour moi, c'est Morjavik de Denver, donc le général manager, qui il a réussi pratiquement en une saison à changer son équipe, quoi. L'année dernière, il était à 4 victoires, 12 défaites. Il a complètement réussi à changer la physionomie et vraiment l'image de son équipe. Il a fini la saison avec 10 victoires, 6 défaites, une qualification en playoff qui. Je sais pas, peut-être Krajicek pourra me confirmer, mais ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Denver
Ouais,
en
bah
playoff.
Denver, oui, c'est.
Je me demande même si on les avait déjà vus d'ailleurs.
Si, si, je crois. Il y avait quelques équipes qui n'étaient pas qualifiées, mais c'est vrai que surtout dans la PAC centre, il y a eu pas mal de turnovers. Là, il y a dernièrement Madison qui s'était installé. Avant, il y avait Minneapolis avec le retour de Sid quand il avait repris l'équipe. Donc, c'est vrai que Denver, ça devait faire un petit moment et ça doit se compter sur les doigts d'une main leur qualification en playoff.
Et puis plus important encore, presque, il a même réussi à faire à donner envie à Mussel White, le running back qui traînait un petit peu, moi je trouve, ces dernières saisons. Et là, cette année, il a vraiment fait la meilleure saison de sa carrière. Pour moi, c'est aussi ça qui a permis des bons résultats à Denver. Mais bon, c'est souvent le général manager, le coach qui font aussi donner confiance aux joueurs et qui permettent d'avoir des bons résultats derrière. Donc voilà, j'espère que Morjavik va avoir des voix pour le vote. On va voir, mais pour moi, c'est quand même un des favoris aussi. Rien que le fait d'avoir vraiment fait basculer son équipe de 4 victoires à 10 victoires, ça mérite de quelques voix pour lui, en fait, hein. Donc voilà, j'espère que on le verra décrocher ce titre pour cette saison. Voilà, d'autres petites choses à ajouter pour les MVP, pour les coachs. Vous avez à peu près dit ce que vous souhaitiez, ou vous avez peut-être repéré d'autres joueurs, des choses comme ça?
Bah, pour moi, c'était les principaux joueurs. En attaque, c'est sûr, je pense qu'ils se jouent entre McCaw et Saunders. Après, en défense, pour moi, vraiment, Hawks sera sans doute le MVP défensif, au moins.
Ouais, et toi, Seb, tu as peut-être repéré d'autres joueurs qui te plaisent bien ou des
Non,
membres
pas.
des joueurs de Québec peut-être ou qui peuvent avoir un poste.
Oh, éventuellement Anderson qui aurait pu être élu, mais bon.
En tout cas, ça
Bon,
risquait pas
on
du côté de Chicago, hein, parce que je crois que c'était notre pire saison offensive depuis longtemps, hein, surtout au
voir.
niveau du jeu aérien où c'était vraiment catastrophique.
C'est vrai qu'au niveau des MVP de la ligue, de toute manière, enfin, de toute façon même, c'est plus souvent des joueurs offensifs, me semble-t-il, qui sont élus que des défensifs. Donc bon, il vaut peut-être mieux avoir une attaque de feu qu'une défense de fer, on va dire.
Pour le titre de MVP, clairement.
Voilà. Bon après pour le MVP du coach, enfin, le coach de l'année plutôt, le titre de coach de l'année, bah, moi c'est vrai que j'aime bien privilégier quand même
Les
les bonnes
surprises.
saisons. Et puis surtout les coachs qui arrivent vraiment à bah, faire changer l'équipe quoi, ça prouve qu'ils ont vraiment travaillé en profondeur, qu'ils se sont investis. Et voilà, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de
Là,
coachs
je
qui
pense
s'investissent.
que cette saison, ça va être assez ouvert pour le titre de coach de l'année, parce qu'il y
Moi
a quand même plusieurs qui pourraient le mériter.
je suis plutôt d'accord. En plus je trouve que le niveau a particulièrement bien augmenté depuis une paire de saisons là. Et on sent les coachs vraiment investis pour faire progresser les équipes généralement.
Donc, moi, il suffit de voir dans l'Atlantic Centre où il y a toutes les équipes qui auraient pu finir avec une fiche non négative. C'est vrai que le niveau, vraiment, avant on avait une ou deux équipes par division, et maintenant on peut en avoir facilement trois qui peuvent lutter jusqu'à la fin.
Ok, bah formidable. Comme ça, on va voir l'année prochaine si on a le même niveau de jeu. En parlant de saison prochaine, on va maintenant passer au rookie draft. Parce que comme chaque saison, tous les espoirs seront placés pour les équipes de bas de tableau dans les joueurs des universités qui vont être donc draftés dans les prochaines semaines. Voilà, donc on va essayer de faire un petit point sur les forces en présence. Et on va commencer par Sébastien, je crois, qui a fait une petite présentation sur les joueurs offensifs qui vont être, on va dire, le top 5 offensif de ces prochaines drafts.
Voilà, donc j'ai préparé mon top 5 offensif des rookies. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec, mais pour moi, ce sont les meilleurs, les 5 meilleurs. Donc,
Ça tombe bien, c'est le principe de l'émission, donc tu peux y aller.
c'est parti. Donc, en premier, donc le running back de Wichita, Jim McGuinty, qui est clairement pour moi le meilleur running back de cette draft, et de loin, avec quand même des prévisions à plus de 1 milliard. 9 touchdowns à la course, 1 à la passe, des AMD qui sont très corrects, même s'il n'est pas tout à fait apte encore avec une note de C pour la ligue professionnelle, il a quand même un beau potentiel de développement. Il est capable également de faire de très longs runs, hein, il a plusieurs fois montré à la fac et bon. Donc c'est un joueur intéressant pour une équipe qui veut établir un bon jeu de course. Seul, on va dire, petit bémol, c'est ses fumbles. Il a un peu les mains qui glissent, on va dire, par moment, mais bon, avec de bons camps d'été, ça devrait aller.
Ouais, je pense qu'il va, enfin, vu c'est AMD, je vais y arriver, excusez-moi, ça risque de se développer et de baisser un petit peu le nombre de fumbles, je pense quand même.
Voilà, je pense aussi qu'avec du travail, cumulé à ces AMD, ça devrait diminuer pour les saisons suivantes. Donc sinon en deuxième, alors donc là j'ai eu beaucoup de mal à départager parce que entre Kenneth Cole de Toronto et Matt Ortega de Wichita, j'ai décidé de placer donc Kenneth Cole en deuxième parce que bon il a
C'est
bon
deux receveurs, c'est
deux
ça,
voilà deux receveurs
hein?
aux statistiques à peu près similaires. Si ce n'est que bon, là, les AMD de Kenneth Cole sont un peu en deçà, mais il n'a qu'un fumble de prévu sur la saison. Et un receveur avec des mains sûres, c'est très appréciable quand même. Donc, et en plus, zéro drop. Donc pour moi, il est deuxième de ce classement offensif.
Ouais, ça permet de voyager loin avec un receveur pareil, c'est sûr.
Voilà. Donc en troisième, donc, je placerai donc Matt Ortega, qui est tout aussi bon que Kenneth Cole, comme il l'a prouvé lors du Senior Bowl. Mais seulement, lui, il a tendance à lâcher les ballons. Et ça, sur d'un receveur qui relâche les ballons, j'aime pas trop ça, donc j'ai décidé de le mettre troisième.
Juste
Je...
une petite précision, c'est aussi Ortega, il est punt returner
Ouais.
et souvent c'est ça aussi qui amène les fumbles parce qu'il n'y a pas de distinction entre le receveur et le retourneur. Donc il peut aussi en avoir en tant que receveur, mais je pense qu'il y en a une certaine partie aussi qui revient de son travail de special team.
D'accord, ouais.
C'est vrai que oui, c'est vrai que c'est une possibilité, ça aussi, ouais. Que bah, le fait de travailler en une équipe spéciale, lui, c'est sûr, lui fait lui prendre beaucoup plus de risques que Cole, par exemple.
D'accord. En même temps, oui, son, du coup, son, sa moyenne par réception est un petit poil supérieur, je vois.
Mais par contre, en
Ouais.
universitaire, c'était deux styles différents où Ortega c'est plutôt la profondeur et Cole le joueur de possession.
Bon, bah ça peut faire deux receveurs complémentaires. On verra qui va
Si on a
piocher ça.
deux tours dans les trois premiers choix.
Ouais, parce qu'ils risquent de partir assez haut quand même ces deux
Ouais.
joueurs.
Je pense
Ok.
aussi. Donc en quatrième, donc un lineman offensif, Andy Moss, du FL, qui quand même a une évaluation de 8,5, donc ce qui le place déjà d'entrée dans les très bons linemen offensifs de la ligue. Des AMD qui sont très bons et qui, bon, il a quelques petits problèmes de motivation. Mais bon, mis à part ça, pour moi, il a tout pour devenir l'un des, d'ici 4, 3 ou 4 saisons, peut-être le meilleur lineman de la offensif de la ligue.
Parce que en fait, oui, avec un total, il a 8,5, forcément, avec AMD 2B, il y a de très fortes chances qu'il atteigne les 10 quand même, hein, c'est sûr.
Voilà, donc pour moi, ce serait un très bon choix pour une équipe en manque de lineman offensif.
Ok.
Et sinon, donc en cinquième, donc Tom, le quarterback Tom Malone, qui ne sera pas, je ne pense pas, ne deviendra jamais un top quarterback, mais peut devenir un bon quarterback sûr, qui prendra peu de risques et qui pourrait dire parfait pour diriger une équipe qui possède un très bon jeu au sol. Moi, c'est le
D'accord.
genre de, pour moi, c'est le genre de quarterback que quand tu es coach, t'as pas trop peur. Tu sais qu'il va faire et qu'il va essayer d'assurer au maximum ses passes. Il sera pas fou, il va pas lancer à tort et à travers. Donc pour moi, il mérite d'être dans ce top 5 des joueurs offensifs.
D'accord, de ce qu'on en voit des AMD, il est un petit peu caractériel apparemment quand même avec un petit dé de motivation là, mais bon.
Parce
Après,
qu'il
il
a
peut avoir une autre carrière.
une saison, enfin une carrière universitaire un peu inconsistante. Là,
Ouais.
il a vraiment flambé cette saison avec l'arrivée du receveur Jeff Evans. Et par contre, aussi, l'avantage de Malone, c'est qu'il n'a que 20 ans, donc 2-3 ans de moins que les autres rookies. Ça veut dire que ça peut être un quarterback pour les 13-14 années d'une franchise.
Ouais, c'est vrai que ça peut stabiliser le poste pour une équipe. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bah, impeccable. Je crois qu'on a fait le tour des 5, c'est bien ça, Seb?
Ouais, voilà, ouais. Pour moi, ce sont les 5 meilleurs joueurs offensifs de cette draft.
Bon, bah super. On va voir du coup avec Krajicek l'autre côté de l'équipe, le côté défense. Je crois que pareil, t'as prévu un top 5, c'est bien ça?
Ouais, tout à fait. Donc en numéro 5, moi j'ai mis le cornerback Bart Kearns d'Annapolis. Donc pour moi, c'est vraiment le corner pur, le plus sûr pour la draft à court terme. Donc il a une bonne carrière universitaire avec 11 interceptions. Là, il est prévu avec 5 et il a des bons AMD. Même si je pense que sur le long terme, Escrit, le cornerback d'Augusta, pourra passer devant. Mais en attendant, si vraiment un manager cherche un cornerback sûr pour être titulaire d'entrée, je pense que Kern est la bonne solution.
Ouais, son intérêt, c'est effectivement qu'il peut jouer titulaire d'entrée, quoi.
Ouais, donc lui, c'est vraiment sur court terme. Après, même à moyen long terme, il sera très bon. Mais je pense quand même, après, il y a Escrit qui a vraiment les aptitudes pour devenir un des meilleurs de la ligue. Ensuite, en numéro 4, j'ai mis Darius Grady, le defensive back d'Augusta. Donc lui, il a pas eu une carrière universitaire de ce qu'on attendait de lui. Donc il est vraiment peut-être rentré comme le meilleur joueur universitaire à la sortie du lycée. Mais c'est un bon joueur, un très bon joueur. Mais il manque encore de potentiel dans les big plays. C'est-à-dire qu'il est prévu à 6 interceptions. À l'université, il tournait à 2 de moyenne. Mais par contre, c'est un très bon plaquer. Donc, c'est quand même un joueur sûr qu'on pourra mettre en cornerback ou en safety. Mais c'est vrai qu'on attendait un peu plus de lui. Donc, à voir si un manager va pas réussir à vraiment sortir tout le potentiel pour qu'il devienne un des meilleurs défenseurs de la STFL.
Ouais, parce qu'en plus on sent qu'il est doué et puis il est polyvalent, il est defensive back, c'est ça?
Ouais.
Ouais, donc c'est vrai qu'il peut jouer à plusieurs positions et à mon avis il va trouver assez vite preneur. Tu as qui ensuite?
Après, en troisième, j'ai mis le linebacker Gerald Iwanski de Portland. Donc, lui aussi, il est polyvalent. Il a de bons AMD. Il avait été une fois sélectionné All-Star en université. Donc, il est assez polyvalent. C'est un bon plaqueur qui peut jouer à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, ça va être aussi une valeur sûre de la ligue.
D'accord.
Ensuite, en deuxième position, j'ai choisi de Columbus le defensive end Styler, donc Peter Styler. Donc lui, il sera vraiment le sacker de cette classe de rookie. Donc je crois qu'à Columbus, qui a été un peu ces dernières années la référence de la défense universitaire, il a accumulé 30 sacs, donc une moyenne de 10 sacs quand on sait qu'il joue que
Par
12
saison.
matchs.
Ouais.
Ouais. Donc lui, ça va être un peu comme, je pense, James Malone qui est rentré, qui est rookie ou qui a un an d'expérience à Houston, qui a déjà fait une grosse saison. Ça va être un peu le même profil, je pense. Et en première position, j'ai sélectionné l'inside linebacker de Columbus aussi, Jeff Thompson. Donc lui aussi, c'est vraiment le gros plaqueur. Donc lui, il a été sélectionné deux fois All-Star et il a reçu le titre de MVP défensif une saison. Et quand on voit la liste des MVP défensifs où il y a Millwood, Tyler, Billings, Hawks, justement, Kenner et Anderton,
Ouais, ça fait une sacrée liste.
c'est souvent un gage de qualité pour la suite.
Ouais, lui peut stabiliser une défense pratiquement
Voilà,
d'entrée, hein,
lui, on le
c'est
met
clair.
en inside linebacker, il va tout de suite apporter contre la course, ça va accumuler les plaquages et les plaquages pour perte de terrain. C'est vraiment du solide. Je pense que c'est l'un des joueurs où on est sûr du rendement qu'il va avoir.
D'accord. Ok, impeccable. On va parler aussi de. Je crois que vous avez noté quelques noms de sleepers, ce qu'on appelle donc un petit peu les. On va dire les joueurs cachés un petit peu dans la liste, mais qui peuvent être utiles, voire développés plutôt bien pour la suite. Donc, je crois que Krajicek, tu voulais me parler d'un defensive tackle, me semble-t-il.
Oui, Bernie Wilkerson d'Anaheim. Donc lui aussi, c'est un joueur, donc pour l'instant, je pense qu'il pourrait être titulaire dans une équipe qui joue en défense 4-3. Donc en université, il était très constant, donc il tourne à 60 plaquages, 6 sacs, 10 stuffs de moyenne. Et aussi, il a fait 16 fumble forced en 3 saisons. Donc c'est vraiment un joueur qui plaque dur, qui peut créer des turnovers et des bonnes situations.
D'accord. Tu as aussi un autre joueur, me semble-t-il.
Oui, c'est le quarterback de Toronto, Tim Hayway. Donc lui, les deux premières saisons, il était un peu dans l'ombre de Mo Hart, qui est parti numéro 2 à Vancouver l'an dernier et qui avait été élu MVP de la ligue universitaire comme accolé. Donc là, c'était sa première saison à Toronto comme titulaire. Donc il a fini en gagnant le titre. Il a fait une très bonne saison. Et l'avantage qu'il a, c'est aussi, en plus d'être un bon passeur, correct au moins, il peut courir. Donc là, il a accumulé plus de 300 yards au sol, je crois. Et donc c'est vraiment un gros potentiel, un gros athlète. Par contre, ce qu'il faudra voir, c'est si vraiment c'est un très bon joueur ou s'il profite pas du système un peu de Toronto. Donc on voit que Mo Hart est sorti, était très très bon université, il a un peu eu du mal à Vancouver. Et là, quand on voit le freshman Stoy remplaçant d'Highway, bon, qui a juste fait 4 passes cette saison, mais 4 passes complétées pour 76 yards et un touchdown pour un rating parfait.
C'est pas mal.
Donc on peut se demander si c'est vraiment un excellent joueur ou s'il a profité du système de Toronto avec notamment Kenneth Cole. Donc ça, il faudra le voir, mais je pense en deuxième ou troisième tour, ça peut valoir le coup de le prendre. surtout dans
Ouais,
une classe
puis
qui est assez faible en quarterback.
il a une bonne marge de progression en plus, donc
Ouais.
effectivement, même en second quarterback, voire en troisième, en attendant une saison où, enfin, vu
Ouais,
ses
peut-être
AMD,
3, 3,
plutôt
4
4-5 ans, on
ans.
va dire, voilà,
Voilà, ça peut
il devrait être pas
devenir
mal.
un joueur très intéressant.
Ok. Côté Seb, je crois que t'as deux joueurs défensifs, toi, me semble-t-il.
Oui, voilà, ouais. Donc je me suis concentré sur les joueurs offensifs, défensifs.
Ouais.
Donc j'ai le linebacker Anthony Hewitt d'Anaheim.
Ah, c'est pas Anaheim ou Annapolis, moi
Non,
je confonds tous les
Annapolis,
deux, les deux.
Annapolis, Annapolis,
Annapolis?
autant pour moi.
Moi je les confonds tous les deux à chaque fois.
qui donc qui sera très utile pour les GM à la recherche d'un gros sackeur. Parce qu'il a une capacité à mettre la pression sur le quarterback adverse assez impressionnante. Et il est, si je ne me trompe pas, en prévision, le meilleur sackeur de cette classe de linebacker.
Ouais, c'est
Avec.
outside linebacker en plus, hein.
Voilà, ouais.
Ouais.
Donc, si on recherche des joueurs capables de venir gêner le quarterback adverse, je pense que c'est le bon choix.
Ouais, alors la seule ouais, après il faudra faire attention à pas trop l'abîmer parce qu'il est un petit peu fragile, mais c'est vrai
Voilà.
il est quand même pas mal au niveau des
On peut
du
le
nombre en
finesse
sac.
le faire commencer dans les formations contre la passe dans un premier temps où ça peut être intéressant.
Voilà, ouais, c'est un joueur très intéressant, ouais, surtout dans les formations passes. Et puis bon, le ménager, voilà, au début, mais bon, pour moi, il peut valoir le coup d'être drafté. Alors bon, bien sûr, pas au premier tour, mais pourquoi pas en fin de second, voire en début de troisième, quoi.
D'accord. En plus, suivant, enfin, vu sa motivation, si bien il va tirer ses coéquipiers vers le haut, là, ça va peut-être booster certaines équipes.
Et booster certaines défenses.
Et certaines défenses. Voilà, et puis je crois que t'as un autre joueur, c'est ça?
Voilà, donc alors qu'il lui vient donc de Toronto. Donc c'est le cornerback Mark Bratch. Donc qui est prévu donc à 4 interceptions. Donc il part d'un niveau assez bas, mais bon, il a réalisé une belle finale universitaire. Et pour moi, ouais, c'est un coup à tenter, surtout que bon, ses AMD sont plus que corrects, hein, avec un 1 en motivation, donc pour booster ses coéquipiers.
Ouais, toujours pratique.
Voilà. Un B en aptitude, donc ce qui montre quand même qu'il a le niveau, hein, qui pourrait déjà intégrer certains schémas défensifs.
Ok.
Donc je le conseille.
Ouais, du coup, il a été
Moi.
élu MVP de la dernière finale où, après avoir été remplaçant pendant 3 saisons quasiment, là, il a sorti le gros match au moment où il fallait avec 3 interceptions, dont 2 pour touchdown. Et quand on voit l'année dernière que c'était Butcher, le defensive tackle de Portland, qui avait été élu MVP de la finale, et cette année, il est à Buffalo, il a été directement sélectionné au All-Star Game. Donc, on peut se dire que peut-être les MVP des finales. Ont quand même du talent et du potentiel pour réussir en STFL.
D'accord, ça peut lui faire gagner quelques dollars de plus si on le draft plus haut, en plus ça peut être utile pour lui. Ok, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur les possibles choix en fait enfin ce qu'on appelle les mock drafts en fait, sachant que c'est Vancouver je crois qui risque
Quel
de
numéro 1?
piquer, c'est ça, Vancouver, Boston, Atlanta me semble-t-il,
Voilà.
hein, les trois premiers.
Ouais.
Donc je sais pas si on peut peut-être commencer par Krajicek, si tu sais un petit peu, enfin d'après toi qui peut piquer quel joueur?
Oui, ben donc au niveau de Vancouver, je pense qu'il devrait se diriger vers un receveur parce que là ils sont un peu limite et surtout avec Moart qui a été drafté en numéro 2 l'année dernière, il va falloir lui donner un peu d'armes. Donc je pense que ça ira soit sur Cole, soit sur Ortega. Ensuite pour Boston, donc là il y a un peu plus de choix. Donc normalement, ils ont déjà un quarterback, ils ont du receveur en attaque qui sont pas mal fournis. Donc
Ouais, il y a une bonne attaque, me semble-t-il, assez jeune en
je
plus.
pense qu'ils iront peut-être plutôt vers la défense avec peut-être un Darius Grady justement qui pourra venir aider à consolider la défense. Et au niveau d'Atlanta, moi je pense peut-être renforcer la ligne offensive qui est assez faible pour l'instant avec ce qu'il y a. Donc je pense peut-être un Marty Snyder qui est un très bon garde Parce
Ouais.
qu'il a été sélectionné une ou plusieurs fois déjà en universitaire ou All-Star Game et qui a vraiment un potentiel énorme pour devenir l'un des meilleurs offensive line de la ligue.
Moi, je suis plutôt d'accord parce qu'en plus la Nouvelle-Orléans la draft, enfin sacre dans tous les sens, donc à mon avis renforcer la ligne offensive, ça va pas faire de mal en principe. On va passer à Seb. Pareil, t'as les trois choix pour toi, d'après toi, les trois premiers choix qui vont partir en priorité pour Vancouver, Boston, Atlanta, ça serait qui?
Alors pour moi, pour Vancouver, je pense également à un receveur, ce qui est
Ouais.
pour moi, surtout avec un premier choix, la meilleure chose à faire pour se constituer déjà une bonne base offensive. Donc bah conforme à ma prévision top 5 offensif, pour moi ils auront le choix soit entre Kenneth Cole, soit Matt Ortega, quoi. Et
D'accord.
après bon là, comme j'ai dit, ils se valent à peu près, donc
Oui, ça sera choix du manager, du coup, après.
voilà. Pour moi, ça sera un des deux là.
Faire attention qu'il fasse des choix à la Manning ou Leaf de la NFL où il y en a un qui devient la superstar et l'autre
Ah ouais, ça,
le
on est
boss
jamais,
complet.
jamais à l'abri de ce genre d'erreur, ouais, ça c'est sûr.
C'est toujours le risque.
Ouais.
Donc pour Boston, moi par contre, je vois bien un lineman offensif.
Ouais.
Et pourquoi pas Andy Moss, qui a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs à son poste. Boston a quand même au poste de centre une petite faiblesse. Donc moi je les vois bien se diriger vers ce genre, parce qu'en plus dans la ligue, c'est rare les linemen de très haut niveau. C'est dur à trouver sur le marché des FA, c'est très cher quand il y en a.
Ouais.
En
Donc,
trade, c'est très dur à en trouver aussi.
il est en bonne position pour se faire drafter assez haut au final.
Je pense qu'il sera choisi assez haut. Et
D'accord.
Atlanta, moi je les verrais bien choisir un safety. Parce que bon, même s'ils en possèdent quelques-uns, il n'y a pas non, il y en a pas un qui se sort du lot. Et je verrais bien Glenn Cameron, qui part d'un niveau 7, mais qui avait des AMD très très fortes, rapidement passera à 9 voire 10, quoi.
Ok, d'accord. Bon, bah, on a à peu près fait le tour. Peut-être quelque chose à rajouter sur les rookies, une remarque ou je sais pas, un petit détail peut-être, Krychek?
Après, je pense une draft qui est difficile à prévoir parce
Ouais.
qu'il y a certaines positions qui sont très fournies et d'autres pas beaucoup. Donc,
Ouais,
faudra
les
voir.
quarterbacks, j'ai l'impression que c'est un petit peu dur cette année,
Ouais,
par
quarterback,
exemple.
à mon avis, il n'y a que Tom Malone. Il y a McGuinty, Lomax à la limite. En receveur, il y a déjà un peu plus de monde. La ligne offensive, il y a des bons joueurs d'avenir, donc je pense que ça va aller. Defensive line aussi. Linebacker, ça va être très fourni. Donc là, je pense que c'est là où on peut faire des bonnes affaires. Et après, en defensive back, là aussi, par contre, il manque un peu de monde.
Un peu de
Donc,
profondeur.
faudra vraiment voir les managers si certains vont essayer de monter dans la draft pour s'assurer un joueur, et du coup je pense que ça peut vraiment tout bouleverser. Mais par contre je pense qu'il y a quand même de bons joueurs dans cette draft qui pourront changer le cours de certaines équipes pour les prochaines années.
Ouais, sachant que les mock drafts risquent de changer après la première vague de free agent, puisque il risque d'y avoir des choix différents
Ça va être
suivant
ça
qui va
aussi,
signer
oui.
où.
Parce qu'il y a quand même quelques bons free agents aussi.
Ouais.
Donc, faudra voir ça.
Ouais,
Mais
ça
je
promet
pense
d'être
être
intéressant.
une draft intéressante, à mon avis.
Ouais. Et pour toi, Sébastien, tu as pareil une petite remarque finale?
Pour moi, cette année, la draft va être pleine de surprises. Parce que si on regarde bien la liste, il y a des joueurs qui ont un talent, certes, mais à court terme, avec des AMD un peu faibles, alors qu'on trouve quand même pas mal de joueurs à un niveau moindre, mais avec de très bons AMD. Et je pense que pourrait y avoir ce choix des AMD favorisés par les general managers, comme souvent, quoi.
Ouais, ça va être intéressant de voir effectivement suivant la stratégie de la franchise de voir peut-être effectivement des managers prendre des moins bons joueurs on va dire au niveau actuel mais qui ont un gros potentiel de développement. C'est vrai que ça risque d'être intéressant. Ben voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous serez nombreux à être présents pour notre prochaine émission, puisqu'on va essayer, si tout se passe bien, d'en faire une prochaine. Vous pouvez bien sûr continuer le débat sur le forum, puisque on était surtout là pour vous informer, donc on espère que ça va lancer pas mal de discussions maintenant sur le forum. Je vous souhaite une bonne soirée donc, et bon courage à tous pour la saison prochaine, pour le draft qui arrive, et surtout pour les deux finalistes pour la finale de demain. Donc, bonne soirée, messieurs.
Bonne soirée.
Au revoir.